France Culture.
Et voilà, il est 12h30 pile et c'est les informations présentées par Servane de Pastre. Bonjour Servane.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Nous serons à Kuala Lumpur en début de ce journal où Donald Trump s'apprête à signer une série d'accords commerciaux avec plusieurs pays, dont la Malaisie, la Thaïlande ou encore le Cambodge. Le Parti des travailleurs du Kurdistan quitte la Turquie pour le nord de l'Irak. C'est l'aboutissement d'un processus de paix débuté il y a 4 ans. Et puis des locaux flambant neufs pour la Fondation Cartier. Elle a inauguré hier sa nouvelle adresse, place du Palais Royal à Paris. De quoi s'interroger sur la multiplication ces dernières années de fondations et musées privés. Et la concurrence est rude avec les institutions publiques. Nous en parlerons avec notre invité. La Chine dit être arrivée à un consensus préliminaire avec les États-Unis alors que des négociations commerciales ont lieu en ce moment en Malaisie. Donald Trump est sur place pour participer au sommet de l'ASEAN. Il doit rencontrer la semaine prochaine son homologue chinois Xi Jinping, le président américain qui a ratifié ce matin des accords commerciaux avec ses plus gros partenaires en Asie du Sud-Est, la Malaisie, la Thaïlande, le Cambodge. Le ton était monté au printemps dernier avec ces pays. Donald Trump avait menacé de leur imposer des droits de douane exorbitants. Sébastien Berriot, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes en direct de Kuala Lumpur. Donald Trump s'est montré beaucoup plus conciliant.
Oui, et pour une raison qui se voit immédiatement lorsqu'on arrive à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. La Chine est ici. Partout, banques, infrastructures, et depuis que Donald Trump a annoncé des tarifs exorbitants pour les pays d'Asie du Sud-Est, les Chinois se sont engouffrés dans la brèche pour être encore plus présents, ce qui a donc contraint Donald Trump à cesser ses menaces tarifaires. Les accords signés ce matin prévoient que pour la Malaisie, le Cambodge et la Thaïlande, les droits de douane réciproques seront plafonnés à 19% et non plus 25%, comme évoqué précédemment. Un soulagement pour ces trois pays qui exportent chaque année des dizaines de milliards de dollars aux États-Unis. Ce volume devrait être maintenu, mais en échange, Donald Trump a aussi obtenu d'importantes garanties, notamment sur la question des terres rares nécessaires à l'industrie américaine. La Malaisie promet de ne plus émettre de quotas sur ses exportations, manière très habile pour le président américain de contourner ainsi les restrictions chinoises sur ces minerais rares.
Merci Sébastien Berriot en direct de Kuala Lumpur pour France Culture. Avant d'arriver à Kuala Lumpur, Donald Trump lui s'est arrêté au Qatar pour discuter du fragile cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. Alors que la question du retour des otages est toujours très présente en Israël, hier des dizaines de milliers d'Israéliens se sont rassemblés dans plusieurs villes du pays pour réclamer le retour de 13 dépouilles toujours manquantes. Le président américain a lancé un ultimatum au Hamas. Lucas Lazo à Jérusalem.
Donald Trump a fait escale hier soir au Qatar, l'occasion de féliciter l'émir Al-Thani pour son rôle joué dans la mise en place du cessez-le-feu à Gaza, mais surtout l'occasion d'adresser un avertissement ferme au Hamas, le pressant d'accélérer la remise des 13 derniers corps d'otages israéliens. Donald Trump a déclaré qu'il suivrait les actions du groupe palestinien de très près au cours des prochaines 48 heures, à l'issue desquelles le Hamas devrait s'attendre, citation, à faire face aux conséquences. À ce jour, le mouvement islamiste n'a rendu les dépouilles que de 15 otages, aucune depuis mardi. Il en resterait donc 13 sous les décombres de Gaza. Pour accélérer les recherches compliquées par l'ampleur des destructions et éviter d'en arriver à une rupture unilatérale du cessez-le-feu alors que les Israéliens réfléchissent déjà à des sanctions, une équipe égyptienne munie de matériel adapté est arrivée hier dans la bande de Gaza. C'est la première fois depuis le cessez-le-feu qu'Israël autorise une équipe étrangère à entrer à Gaza. La semaine dernière, le passage de 80 secouristes turcs avait été refusé.
La Russie annonce avoir réussi les tests finaux de son nouveau missile de croisière à propulsion nucléaire. Un missile d'une portée illimitée, selon Vladimir Poutine. Cette annonce intervient alors que l'armée russe poursuit son avancée en Ukraine. En Turquie, le processus de désarmement du PKK se poursuit. Le Parti des travailleurs du Kurdistan a annoncé le retrait de ses combattants de Turquie vers le nord de l'Irak. Cette annonce intervient un peu plus d'un an après le début d'un processus de paix entre le groupe armé et les autorités turques. Elle est censée ouvrir la voie à des réformes du côté d'Ankara à Nandlower.
Il faut voir dans cette annonce un geste de bonne volonté de la part du PKK visant à donner confiance aux autorités et à l'opinion publique turque dans sa volonté de faire la paix. Depuis que le groupe avait annoncé son intention de désarmer en mai, puis brûler symboliquement une trentaine d'armes en juillet, plus rien ne semblait avancer sur le terrain. Dans son communiqué, le PKK annonce retirer tous ses combattants encore présents en Turquie, ainsi que ceux postés dans des zones frontalières afin, explique-t-il, d'écarter les risques de confrontation ou de provocation. Ils sont censés rejoindre les bases du PKK dans le nord de l'Irak, où se trouve déjà la grande majorité des combattants du groupe et ses chefs militaires. C'est donc avant tout une décision symbolique, censée confirmer la volonté du PKK de déposer les armes. Ce geste vise notamment à faciliter le travail de la commission parlementaire établie début août pour encadrer le désarmement. Cette commission transpartisane doit prochainement remettre un rapport, étape préalable à la préparation d'une loi dite de retour à la maison. Son but sera de régler le sort des anciens combattants du PKK, considérés par la Turquie comme des terroristes. Dans son communiqué, le groupe kurde appelle la Turquie à promulguer sans délai les lois, je cite, « nécessaires à sa participation à la politique démocratique ».
Anand Lawer, envoyé spécial à Ankara de RFI pour France Culture. La séance a fini tard cette nuit à l'Assemblée nationale pour le deuxième jour de l'examen du budget 2026. Les députés ont notamment approuvé la défiscalisation des heures supplémentaires. Le gel du barème de l'impôt sur le revenu a lui été rejeté. Autant de mesures qui pourraient s'avérer extrêmement coûteuses, pointe la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin. Elle a annoncé que certains articles seraient examinés en priorité demain lors de la reprise des débats, ce qui repousserait notamment l'examen de la taxe Zucman. Une semaine après le cambriolage au musée du Louvre, deux hommes ont été interpellés hier. Ils ont été placés en garde à vue. Originaires de Seine-Saint-Denis, les suspects sont connus des services de police, notamment pour des braquages de bijouterie. Ils ont été retrouvés grâce à de l'ADN retrouvé sur place, selon des sources proches de l'enquête. L'un des hommes s'apprêtait à fuir le territoire. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a félicité les équipes tout en appelant au respect du secret de l'enquête. Et puis c'est le prix le plus prestigieux de la presse francophone, le prix Albert Londres, a été décerné hier à Julie Braffman, chroniqueuse judiciaire à Libération. Elle a notamment couvert le procès de Joël Le Squarnec ou encore celui des papy braqueurs. Elle était l'invitée ce matin du 7h50 de France Inter et se réjouit d'être l'une des rares journalistes judiciaires à être lauréate.
Quel bonheur d'être une incongruité et d'être distinguée pour ce travail qui met en lumière cette rubrique du journalisme qui est absolument merveilleuse. La chose judiciaire, moi j'ai commencé en fait le journalisme en entrant dans une cour d'assises, j'en suis plus vraiment ressortie parce qu'il y a quelque chose d'absolument, je trouve, fascinant et universel à raconter. Et peut-être que c'est aussi une incongruité, la cour d'assises, dans un monde où il existe des images de tout, des retransmissions. C'est un endroit qu'on ne peut ni filmer, où il n'y a pas d'autre voix extérieure que celle des journalistes qui racontent ce qui s'y passe. Donc le chroniqueur judiciaire a une place toute particulière. C'est l'idée de comprendre un endroit un peu sombre de l'humanité qui, à première vue, a l'air comme ça un peu d'un monolithe, soit de violence, soit de mystère, soit de quelque chose qui nous semble complètement hors norme, hors monde, et puis de le ramener un peu vers nous, vers chez nous, et se dire qu'en fait c'est à l'intérieur de notre société que ça s'est passé, et que ça mérite d'y réfléchir un petit peu.
La Fondation Quartier pour l'art contemporain a pris ses nouveaux quartiers hier, place du Palais Royal, face au Louvre et au Musée des Arts Décoratifs, non loin de la Fondation Pinault. Depuis plus de 30 ans, cette institution se trouvait boulevard Raspail, dans le 14e arrondissement de Paris. Un besoin d'espace, conquête de nouveaux publics, un ancien grand magasin de 8 500 m² a été réhabilité. C'est l'architecte Jean Nouvel qui a été chargé de l'aménagement. Ces fondations privées prennent de plus en plus de place dans le paysage de l'art et notamment de l'art contemporain en France. On en parle avec notre invitée Nathalie Moureau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure des universités à l'université Paul-Valéry Montpellier, spécialiste en économie de l'art contemporain. Alors le fait que ces fondations, et notamment la fondation Cartier, se rapprochent géographiquement d'institutions muséales comme le musée du Louvre ou encore celui des arts décoratifs, est-ce que ça a une portée symbolique forte ?
Oui, tout à fait. Et plus encore que ce que vous dites, c'est pas non seulement il y a le Louvre, mais la nouvelle fondation s'ouvre d'un côté sur le Louvre et de l'autre côté, c'est sur le ministère de la Culture. Donc on voit qu'il y a cette symbolique extrêmement forte qui est assez évidente, mais en filigrane, et vous l'avez dit dans votre introduction, il y a aussi la référence commerciale aux grands magasins qui montre un peu cette dualité de quartier. Donc il y a cette affirmation symbolique muséale, mais ce sont les grands magasins. Le nom de l'exposition, c'est l'exposition générale, qui étaient les expositions qui avaient lieu dans les grands magasins. Et en outre, on voit de façon beaucoup plus évidente que ce que cela n'était quand ils étaient boulevard Raspail, le nom Fondation Cartier, qui est très très visible et qui était beaucoup moins visible au préalable. Donc il y a un peu cette ambiguïté, c'est-à-dire qu'à la fois, on affirme très clairement cette nouvelle position institutionnelle et la position est vraiment très très importante, mais il y a aussi cette affirmation commerciale, en fait. Mmh. Enfin, commerciale, de la référence, en tout cas, à la marque.
Mmh. Mmh. Ces dernières années, ces fondations, elles se sont multipliées en France, c'est ça la tendance ?
Oui, alors c'est notamment depuis 2003, puisqu'en 2003, il y a eu la loi Ayagon qui a véritablement encouragé le mécénat en France, qui était bien moindre avant en France par rapport à d'autres pays. Mais il y a eu de grandes facilités pour ouvrir des fondations, des avantages fiscaux. Mais par contre, il faut dire que la Fondation Cartier, elle, date de 1984. C'est-à-dire, c'était une des premières fondations à s'ouvrir avant même qu'il y ait cette loi sur le mécénat. Et elle a également travaillé à la première loi sur le mécénat, dans les années 87. Mais, depuis 2003, il y a une explosion du nombre de fondations. Donc, on le sait, LVMH, la Bourse du Commerce, la Fondation Emmerich qui va aussi ouvrir sur l'île Seguin, il y a la fondation Lafayette Anticipation, la fondation Pernod Ricard. Il y a une multiplicité de fondations dédiées à l'art contemporain.
Et ça a transformé la scène justement de l'art contemporain.
Ah oui, bien sûr, puisque ça crée une multiplicité d'expositions. Mais en fait, aujourd'hui, c'est plus via l'exposition que ces fondations interviennent, mais elles sont également intervenues via des prix. Par exemple, la fondation Pernod Ricard, dotée les artistes d'un prix, donner une œuvre au Centre Pompidou. Donc en fait, c'est un travail qui n'est pas uniquement via l'exposition, mais aussi à travers d'autres interventions. Mais c'est vrai qu'on voit un glissement avec de plus en plus l'apparition d'espaces d'exposition qui prennent le pas sur les autres interventions.
Oui, justement. Et est-ce qu'elles forment une concurrence peut-être nouvelle pour les institutions publiques, pour les musées publics ?
Alors, elles se plaisent à dire qu'il y a une émulation plus qu'une concurrence, mais il y a également une concurrence, ne serait-ce que parce que auparavant on était plus sur un mécénat de contribution où elles apportaient des fonds au musée, alors qu'aujourd'hui on est passé à un mécénat d'initiative où elles ont cette activité, ce qui est autant moins de fonds pour les musées. Il y a également, si vous prenez des abonnements à différentes institutions, vous pouvez pas prendre 10 000 abonnements aux différentes fondations, au Centre Pompidou également. Et puis, il y a aussi elle crée un effet d'attraction de conservateurs qui, auparavant, travaillaient plus dans les institutions publiques. Mais, évidemment, ce qui est proposé dans les institutions privées sont sûrement plus attractifs. Et on a de nombreux exemples de conservateurs qui sont passés d'institutions publiques chez ces fondations. Donc, se pose un problème, effectivement, aussi de concurrence.
Oui, et puis, il faut dire que la Fondation Cartier ouvre au moment où Beaubourg, qui était le musée public d'art contemporain, ferme.
Tout à fait.
C'est pas un hasard.
C'est pas du tout un hasard. Il se pose la question quand le Centre Pompidou va rouvrir, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que les autres auront pris la place ? Enfin, on peut espérer qu'il va retrouver sa place. Mais effectivement, on arrive à une période où l'art contemporain dans le centre de Paris va vivre grâce à ces institutions privées.
Voilà. Et des institutions qui se trouvent principalement à Paris. La scène parisienne, aujourd'hui, elle est devenue centrale pour ces fondations ?
Alors, pour l'art contemporain, on voit qu'il y a un renouveau de la place de Paris qui n'est pas uniquement lié à ses fondations. On voit l'arrivée de grosses galeries internationales étrangères qui se sont installées à Paris. On voit la foire Art Basel Paris qui a pris la place de la FIAC. Donc il y a un mouvement d'attraction sur la place parisienne qui est lié notamment à la place aussi de très grands collectionneurs que sont Pinault et Arnault. Aujourd'hui, on a tendance à dire, il y a aussi d'autres conditions qui sont le Brexit, alors que Londres était une place centrale pour le marché de l'art, qui fait qu'aussi il y a peut-être aussi un déplacement sur Paris. Donc il est indéniable qu'il y a un très fort dynamisme de la place parisienne. On a tendance à dire cocorico très vite, mais il ne faut pas oublier que si on regarde les transactions dans le monde, la France est certes à la quatrième place, mais elle ne représente que 6% du marché. Mmh. Donc il y a encore du chemin à faire.
Très bien, un grand merci Nathalie Moureau. Je rappelle, vous êtes professeure des universités à l'université Paul-Valéry de Montpellier et spécialiste en économie de l'art contemporain. Un grand merci. Le temps pour finir, encore très nuageux aujourd'hui avec des passages pluvieux, notamment dans l'est du pays. Il neige dès 1100 mètres dans le Jura pour les températures. Il fera 6 degrés à Bourg-Saint-Maurice, 10 à Amiens, 12 à Paris, 18 à Ajaccio. C'est la fin de ce journal. Merci à Brice Garcia pour la réalisation, à Valentin Bauger qui est à la technique. Merci également à Aloïs Guérin pour la préparation de l'interview.